Nous accueillons le père Michel Briand. Bonjour à vous. Vous êtes prêtre de la Société des Pères de Saint-Jacques à Guiclan. Vous êtes en Haïti depuis de nombreuses années et en France depuis l'automne dernier. Qu'est-ce qui vous est arrivé en Haïti? On peut rappeler cet événement douloureux pour vous?
Le 31 août, à Port-au-Prince, sortant d'une banque, deux voleurs m'ont traqué et ont essayé de me prendre l'argent que j'avais sur moi. Et un des deux avait une arme, il était même casqué, en voulant me jeter sur moi. Donc il a pris son arme, il m'a tiré une rafale. Enfin, pas une rafale, mais une balle. Je me souviens, je me suis battu avec lui. Et au bout de quelques minutes, je me suis aperçu que j'allais perdre peut-être la vie. Et je me suis dit, mieux vaut que je lui donne ma banane qui était accrochée à mon ventre. Là, je lui la donne et puis bon, pour qu'il puisse partir. C'est ce que j'ai fait. Et au moment où il a pris la banane et juste avant de partir, il m'a mis une deuxième balle. Peut-être comme... J'ai souvent le cas de
la balle fatale.
Pas fatale, la première était aussi fatale, mais bon, c'était peut-être pour me remercier qu'il m'a remis une deuxième balle. Et donc, accidenté. Heureusement, je n'ai pas perdu connaissance. Deux policiers sont arrivés à mon secours et je les ai demandés de me conduire à l'hôpital. Ma voiture était tout à côté. Donc, je leur ai donné les clés, ils m'ont emmené à l'hôpital le plus proche. Et l'intervention s'est faite très rapidement, qui fait que je n'ai pas perdu de sang. Bon, ça pas... il y a eu une intervention chirurgicale, j'ai eu deux fois. Et puis, des conséquences à la suite post-opératoire, œdème, complications, enfin bon, qui s'aggravaient. C'est là que j'ai demandé à partir en Martinique. L'assurance a été d'accord, donc je suis arrivé en Martinique et j'ai eu des soins plus importants qui m'a permis de faire face à l'accident que j'ai eu. Et
vous êtes en convalescence toujours, en Bretagne
toujours. Et je suis arrivé à Brest parce que j'avais une douleur au niveau de la hanche. Une des deux balles avait frappé le ciliac de la hanche, hein, l'os. Qui avait même fendu le ciliaque et je sentais une douleur qui me faisait mal. Et c'est en arrivant à Brest qu'on m'a trouvé 5 bactéries à l'endroit de l'os. Là. Donc, heureusement que je suis même arrivé en France, sinon les bactéries m'auraient été fatales pour moi, peut-être.
Alors, vous retournez normalement en Haïti au mois d'août, c'est ça?
Oui, c'est ça, début août en principe.
J'ai voulu commencer, Michel Briand, par cet événement malheureusement douloureux pour vous, pour parler de votre mission en Haïti au foyer Saint-Antoine, foyer Caritas.
Il y a la paroisse,
la paroisse
de Saint-Antoine qui a un centre qui accueille les enfants de la rue. Oui.
Vous pouvez nous en parler justement, parler de votre engagement quand vous êtes arrivé en Haïti la première fois, c'était en 1986.
Oui, alors je suis arrivé en Haïti... Disons que ma première expérience en Haïti a été à l'époque où j'étais volontaire à la place du service militaire. Déjà, peut-être à l'âge de 20 ans, j'avais envie de servir et d'aller dans un pays en difficulté. Donc, j'ai trouvé un poste et on m'a dit, ben voilà, c'est Haïti. Alors, bien évidemment, j'ai regardé où ça pouvait se situer et c'est là que j'ai découvert donc Haïti. Et j'ai passé donc 3 ans comme volontaire en Haïti. Je travaillais dans l'éducation, à former les professeurs pour qu'ils soient plus créatifs et plus aptes dans leurs responsabilités. Et c'est là que j'ai rencontré les Pères de Saint-Jacques, dans les paroisses où je travaillais. Et c'est à mon retour d'Haïti que, j'ai fait le choix, j'ai pris le risque, je me suis plongé dans l'eau en quelque sorte pour m'engager à la suite du Christ pour devenir prêtre.
Pourquoi vous parlez de risque?
Oui, parce que c'est jamais évident de s'engager. Bon, on sait ce qu'on est aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que demain sera. Demain sera en fonction de ce qu'on est aujourd'hui, mais c'est une aventure, c'est un risque. Parce que le désir est aussi habité par le doute. Est-ce que je suis fait pour ça, notamment? Bon, il y a toujours un doute. Toujours, donc il y a, dans le risque, il y a à mesurer tous les je dirais peut-être les extrêmes, à la fois ce désir, cet appel qu'on ressent et les difficultés, le célibat, l'engagement d'une manière à long terme, définitive. Donc tout cela rentre en jeu pour faire un choix. On ne fait pas que... Il y a suivre le Christ, c'est un élément, mais ce que demande l'Église, c'est aussi un élément, et plusieurs éléments, il faut les prendre en compte également.
Alors Michel Briand, quand est-ce que vous avez justement su que vous étiez fait pour ça?
Quand je suis revenu, mes deux premières années au séminaire, qu'on appelle les années de philosophie, paraît-il, ma chambre était totalement envahie de décorer, comme si j'étais en Haïti, avec des peintures et autres d'Haïti. Et donc, mon cœur était donc, comme ça pouvait se voir, resté en Haïti. Et alors, une question m'a habité à ce moment-là. Bon, pour vivre en Haïti, oui. Mais déjà à cette époque-là, il y a 30 ans, le séminaire en Haïti se remplissait. Il y avait beaucoup de jeunes haïtiens qui voulaient devenir prêtres et le séminaire était plein. Et à cette époque-là, le nôtre, ici en France, était déjà vide. Alors, je me suis dit, pourquoi partir en Haïti alors qu'il y aura plus de prêtres haïtiens chez eux et moins chez nous? Pour chercher une réponse, je suis allé en Haïti pendant les vacances entre la philo et la théologie. Je suis allé pendant 3 mois et j'ai eu la chance de rencontrer un des évêques en Haïti et je lui ai directement posé la question, est-ce que l'église d'Haïti aura besoin de missionnaires dans l'avenir, sachant qu'il y aura beaucoup de prêtres haïtiens? Et il me dit, la mission, ce n'est pas au niveau du nombre, de la quantité, mais elle est au niveau du signe. Ça veut dire que une église qui s'enferme sur elle-même, sous prétexte qu'elle a un nombre suffisant, elle n'a pas besoin d'étrangers, c'est une église qui se meurt, qui a un repli sur elle. L'église, elle est universelle, donc ouverte au monde, et pour la visualiser, pour qu'elle soit réelle, eh bien, c'est par la présence d'étrangers au milieu de nous. Qui montre que l'Église est réellement missionnaire. Alors j'ai trouvé cette réflexion intéressante et c'est ça qui m'a déterminé à faire le choix de rentrer chez les Pères de Saint-Jacques, puisque je les connaissais, ayant vécu 3 ans avec eux en Haïti. Donc j'ai fait le choix d'être avec les Pères de Saint-Jacques, d'autant plus qu'il y a certains qui m'ont impressionné, donné le goût. Le goût
qui,
de
par
devenir
exemple
Ernest Guélo, père Guélo de Rochefort-en-Terre, qui est décédé, ça fait plusieurs dizaines d'années, 15 ans déjà. Et dans sa manière de vivre avec les Haïtiens, pour moi, il est un témoin. Et c'est cette façon d'être et de partager sa vie avec les Haïtiens qu'il l'aimait beaucoup. Ça a été un modèle, une référence pour moi, et je me suis dit, pourquoi pas moi, pour en faire autant également. Et voilà.
Seul de nous connaît.
Alors on va continuer avec vous sur RCF. Père Michel Briand a parlé de votre engagement en Haïti. On évoquait le foyer Saint-Antoine, foyer Caritas, qui s'occupe des enfants des rues. Donc depuis le mois d'août dernier, disons septembre, vous n'y êtes plus. Vous allez y retourner en août prochain, donc ça fera un an. Qui prend la suite pendant cette absence?
Disons que j'étais responsable d'une paroisse qui s'appelle Saint-Antoine et il y a quelqu'un, un autre père de Saint-Jacques, qui prend le relais pendant l'année où je suis absent. Normalement, je devais partir en année sabbatique.
Au Brésil.
Voilà, exact. En année sabbatique. Et puis, ben voilà, les choses ont fait que j'ai commencé mon année sabbatique dans les hôpitaux. Et puis, je le termine en France en convalescence.
Mais vous ne retournez, vous n'irez pas au Brésil finalement?
Oui, malheureusement, je ne pourrais pas aller au Brésil suite à ce qui m'est arrivé. Et donc, c'était déjà prévu qu'il y ait quelqu'un à me remplacer déjà plusieurs mois avant que début septembre arrive, au moment où je devais partir. Et donc, l'accident arrivait juste au moment où... Et d'ailleurs, c'était l'argent qui devait payer mes billets d'avion.
C'est, donc, c'était... Il était dans la sacoche.
C'est là. Et c'est lui qui me remplace actuellement. Et enfin, fin août, donc normalement, je devrais prendre le relais et continuer ma mission là où j'ai été.
Alors justement, ce foyer, vous pouvez nous en parler, nous parler de la situation là-bas?
À l'intérieur de cette paroisse, effectivement, il y a ce foyer qui existe, qui a été créé par Père Pierre Le Belair, un de mes prédécesseurs, qui a créé ce foyer, c'est pour accueillir des jeunes enfants ou adolescents qui vivent dans les rues de Port-au-Prince. Alors, comment les aider à ce qu'ils puissent refaire leur vie, leur donner une chance de pouvoir réussir leur vie? Les rues à Port-au-Prince, c'est l'enfer. Une image, les enfants le disent, hein, ceux que nous accueillons, ils se font battre, ils se font humilier, battre par les plus grands, battre par la police. Dès qu'il y a des mauvaises actions qui sont déroulées dans la rue, on les accuse en premier, ce sont les enfants de la rue, ils sont considérés comme des petits brigands, des voleurs, bon, pas jusqu'au niveau des assassins, mais des petits brigands. Bon. Et alors, ils sont montrés du doigt continuellement. Et dès qu'il y a quelque chose de mal qui se fait, ils sont immédiatement accusés. Alors, ils ont cette image qu'on leur donne, cette très mauvaise image, et ça les fait souffrir, effectivement. Alors, les nuits, ils dorment à même le sol dans les rues, mais bon, ils se font voler, violer par les aînés. C'est horrible, hein. Ils sont obligés d'être regroupés, ils appellent ça par base. Dans les rues, un enfant ne peut pas être isolé. Il faut qu'il vit avec un autre enfant, plusieurs autres. Ils sont quatre, ils sont cinq, ils sont six. Et il y a une forme de solidarité entre eux étant à plusieurs. C'est obligé. Sinon, ça va être encore pire pour chacun d'eux. We're gonna sing a song for all our friends in Haiti and New York. In Miami, for all our friends all over the world, I'm gonna sing a song for them. L'amour du doux. Laissez-moi parler, laissez-moi dire sa pensée. Pas ça supporter, senti faiblesse dans le cœur. Moi envie où j'y t'attendais, ou qu'à fixer moi dans fond d'yeux. Vous dîmes de doux ou à l'amour. Chita n'en font qu'un bout. Oh, laissez-moi parler, laissez-moi dire sa pensée. Pas ça supporter, senti faiblesse dans le cœur. En aller.
Alors vous sortez les enfants des rues?
Alors, il y a un accompagnement qui est fait par quelques-uns des membres du foyer qui, chaque semaine, va les rencontrer dans les rues, au niveau des bases dont on a parlé. C'est là qu'ils se retrouvent et ils échangent avec les animateurs. Ils sont habitués de les voir, ils les connaissent bien. les animateurs connaissent aussi l'histoire des uns et des autres. Et donc, il y a une connaissance mutuelle qui fait que les enfants se livrent assez facilement auprès des adultes qui les connaissent bien. Et donc, il y a une certaine confiance qui s'y instaure et ils se livrent assez facilement. Dans le choix que nous faisons pour accueillir un enfant, un jeune, c'est le désir qu'il doit manifester de retourner chez lui. Il faut qu'il ait ce désir, parce que le foyer ne peut pas accueillir les enfants sur plusieurs années. On n'a pas d'espace, et puis bon, il y a tellement d'enfants qu'il faut qu'il y ait un roulement. Donc on les accueille qu'une durée d'un an, et pendant l'année, on travaille avec le jeune, avec l'enfant, pour qu'il puisse retourner chez lui.
Comment est-ce que vous faites en sorte qu'il retourne chez lui?
Alors, Michel Briand, on l'accueille au foyer, il est scolarisé, il est nourri, il est logé, et il est accompagné par des personnes qui travaillent avec eux. Et pendant l'année où il est scolarisé, on essaye d'aller chez lui.
Parce que dans sa famille, il est battu. C'est ça, alors, en fait. Ça se passe mal. C'est pour ça que les enfants quittent leur famille.
Alors, maltraité, la violence, c'est l'une. C'est pas seulement que ça. Il y a aussi les situations économiques catastrophiques qui font que l'enfant souffre de la faim ou bien d'autres besoins qu'il pourrait avoir. Et il fuit. À partir du moment où on a défini le lieu où il habite, les animateurs vont chez ses parents ou dans sa famille, parce que bien souvent, il y en a qui ont peut-être plus de parents. Mais au moins, il y a la famille, il y a les oncles, il y a les tantes. Et on essaye de prendre contact. Ça nous est arrivé où la famille pensait qu'il était mort, puisqu'ils avaient, depuis plusieurs années, pas de nouvelles du jeune. Donc, c'est une grande surprise. Hein, quand ils voient arriver l'enfant, ils se disent, mais on connaît cet enfant, mais il était là avec nous. Et puis, alors, parfois, c'est une surprise énorme de revoir leur enfant qui était au milieu d'eux et qui avait fui à un moment donné. En général, dans la totalité, les membres des familles sont d'accord pour qu'ils puissent revenir. Ils sont prêts à l'accueillir. Hein, ce qui bloque et qui est souvent difficile, c'est la situation économique. Maman an, papa an, pa vle m'pale. Tout sa mwen di an, yo di se soufek mwen ye. Sak fè mal la sele, ma pala vel yo kale. Yo di m'son wout kway. Oh, ya look like a dejwe. Wout kway. Oh, ya look like a dejwe. Kame se lans tan bala mwen se mwen te pa de kouwe sou kwa. Mwen ti rive mwen de zon kabouyal. Papa te met mwen ve mwen se mwen te mba be jan pelle. Te met sote pompe. C'est là s'il y a une bonne nouvelle. Faut vivre stop à yon casual. En tout pour moi, c'est pour moi. Mon Dieu t'es folle. Papi, mon chérie, exilé, ma petite elle. Reste dans son ballon. La séparation de l'enfant peut aussi apporter un mal-être auprès des parents en disant mince, il y a quelque chose. Et alors, ils vont faire le maximum pour pouvoir l'accueillir. C'est ce que nous faisions, mais malheureusement, avec le manque de moyens que nous disposons, on ne peut pas le faire de manière ce qu'on aimerait le faire. C'est de scolariser l'enfant sur plusieurs années une fois qu'il est arrivé chez lui. Un petit peu, d'abord, qu'on soit sûr qu'il soit scolarisé et permettre aux parents d'être un petit peu soulagés par ce moyen-là. Au moins, il est scolarisé. Il peut avoir des problèmes peut-être au niveau de la nourriture, mais au moins, il pourra aller à l'école. Alors, on le faisait et malheureusement, on le fait de moins en moins parce qu'on a moins de fonds. On suit l'enfant sur un an ou voire deux ans après qu'il soit déjà...
Combien d'enfants alors, Michel Briand?
La quantité, c'est 20. On a une capacité d'accueil 20 enfants. Ça tourne autour de 15, 16, parce qu'au cours de l'année, même si on en accueille 20, il y en a qui partent en cours d'année. Bon, voilà, c'est leur choix. Il y en a qui quittent le foyer sans sans qu'ils nous disent quoi que ce soit, un beau matin, tiens, pop, on ne voit plus quelqu'un. Où il est parti, bah, c'est les petits copains qui disent, ben non, il est reparti dans la rue. Bon, ça montre que nous ne sommes pas une prison. Le foyer n'est pas une prison, c'est pas un lieu où on exige à ce que le jeune doit y rester. S'il se sent pas bien, s'il préfère la rue, bon, après tout, c'est son choix. Mais on l'oriente à ce qu'il ne puisse pas prendre ce chemin. Mais bon, faut pas oublier que la rue peut être attirante pour un enfant. Il peut se faire de l'argent en lavant des voitures ou en mendiant, en demandant de l'argent. Il y a beaucoup de personnes, des Haïtiens, qui donnent. Les Haïtiens donnent. Et donc, quelqu'un qui est dans la rue peut se faire de l'argent. Et donc, ça attire. Bon. C'est peut-être ça. Au foyer, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent de poche.
C'est ça qui les attire.
Alors, effectivement, l'enfant qui désire retourner chez lui et de vivre une année sans argent et de faire le choix d'aller à l'école, c'est une orientation déjà qu'on trouve bien claire au niveau de l'enfant et qui a du mérite. Une autre dimension qu'on trouve chez ces enfants de la rue, c'est leur maturité. Ils se retrouvent dans la rue très vite et la rue les empêche de vivre leur vie d'enfant ou d'adolescent. Ils ne peuvent pas, entre eux, ils se protègent davantage de toute forme d'agression qu'ils peuvent recevoir, qui fait qu'ils mènent un combat quotidien pour la survie. Et donc, ils deviennent matures beaucoup plus vite que quel que soit un enfant dans une famille, chez ses parents. Et on le voit dans leur réflexion, dans leur manière de se comporter. Bon, parfois, ils sont très durs entre eux. Hein, quand ils viennent de rentrer au début d'année scolaire en septembre, quand ils arrivent au foyer tous une quinzaine, une vingtaine, C'est dur, hein, parce qu'ils sont très durs entre eux, ils sont très violents. Dès qu'il y a quelqu'un qui reçoit une contrariété ou autre, ils se manifestent par la violence à l'égard de l'autre. Donc ils sont très violents et ils ont un vocabulaire très dur. Bon, c'est pas pesé, c'est le vocabulaire de la rue. Et c'est la violence de la rue qu'ils portent en eux. Donc il faut plusieurs mois pour qu'ils se calment en quelque sorte. Et ce qui leur permet de se sociabiliser, c'est l'école.
Oh, l'homme a la velote contre l'eau sortie dans roche. C'est vous et moi, comptez sur moi, comptez sur moi. Moi, vine saisie sans parole, sauf couper, qu'est moins femme. Posez-y-moi, posez-y-moi. Carton yo palé, me dit où mériter. Ou pas tes doigts te lever, ou pas tes doigts l'idée. Mais c'est fierté ou gagner. Pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous soyons seuls, perdés.
Père Michel Briand, l'école est privé en Haïti,
oui.
9 écoles sur 10,
oui,
je crois
près.
À peu près.
Oui.
C'est une des difficultés justement que vous rencontrez parce que vous parliez d'éducation. Donc j'aimerais que vous nous résumiez un petit peu la situation.
Oui, la scolarité, malgré que le pouvoir précédent avait mis comme une des priorités l'éducation. Mais bon, c'est loin d'être gagné. 9 enfants sur 10 paient effectivement leur scolarité. Alors, quand on dit payer leur scolarité, c'est l'argent qui est demandé aux parents par l'établissement sert à payer les professeurs et à faire fonctionner l'établissement. Et puis à couvrir les autres frais qu'il peut y avoir dans un établissement. Et donc, c'est très onéreux. C'est très onéreux. Je pense que proportionnellement revenu d'un Haïtien moyen, c'est l'un des pays où la scolarité est le plus cher. Toute proportions gardées, hein, j'entends.
Donc vous les aidez à financer leur scolarité, on peut le dire de cette manière?
Ah oui, quand ils sont au foyer.
Les aides viennent d'où pour financer le foyer?
Alors il y a différentes... Pour le foyer, oui. On a eu, depuis le tremblement de terre...
En 2010, on le rappelle.
Oui, c'est ça, en janvier 2010, on a eu le secours catholique allemand qui nous a accompagnés pendant 6 ans. Et là, bon, ils nous disent que le fait qu'ils ont fait le choix de partir après 5 ans, comme le Secours catholique français d'ailleurs, ben voilà, ils arrêtent leur collaboration. Bon, c'est gênant parce que, bon, ça va nous créer d'autres difficultés dans les mois à venir. Mais sinon, pour le fonctionnement, ça veut dire pour l'intendance, hein, pour la nourriture des enfants... Et même la scolarité, on est obligé d'accueillir des fonds qui viennent un peu de partout, hein, de Bretagne notamment, beaucoup. Des fonds que nous recevons, particuliers, d'associations, de petites ONG, qui militent pour accompagner et qui mènent des actions pour accompagner la scolarité en Haïti. Donc... On reçoit cette forme d'aide et qui sert à la nourriture, aux nourritures surtout des enfants et à la scolarité. Et à payer, enfin, à ce qu'ils aient des vêtements décents sur eux, bon, etc. Enfin, bon. Concernant les enfants, je crois que c'est un travail qui est difficile, c'est vrai, mais c'est quand même beau. De travailler. Alors, ce qu'on essaiera de faire dans l'avenir, c'est comment entrer en contact avec les aînés, ceux qui ont eu la chance de sortir, et il y en a, qui ont eu une profession. C'est comment d'arriver à les contacter et qu'eux peuvent aussi nous aider comme quelqu'un de Bretagne.
Parce que là, vous êtes combien pour l'instant dans le foyer?
Combien de personnes actives? Il y avait 14. 14 personnes pour 20 enfants. Plus, il y avait un autre pôle d'activité. C'était d'accompagner les adolescents. Ce n'était pas des enfants, des adolescents de 15 à 20 ans. Enfin, adolescents rentrent dans une certaine maturité jusqu'à 20 ans, qui ne veulent pas retourner dans leur famille. Alors, c'est de les accompagner seulement la journée, leur donner des formations, bon, sur les dangers, enfin, bon, ils connaissent les dangers, mais comment les aider à prendre des risques pour toutes les maladies qu'on peut attraper en ne faisant pas attention. Donc, toute une formation qui leur permet d'être plus à même d'être responsable de leur vie, en quelque sorte. Alors, cet accompagnement et aussi leur permettre d'avoir une formation professionnelle, de les mettre en lien avec une école professionnelle, Saint-Jean Bosco, qui leur permet d'acquérir une formation dans le bâtiment, en quelque sorte, dans tous les types de corps de bâtiment. Alors, ça se fait également à ce niveau-là.
Oui. Merci beaucoup, Père Michel Briand, d'avoir été notre invité sur l'antenne d'RCF. Et puis, on vous souhaite un bon retour en Haïti. Donc, le 9 août prochain, oui, vous avez déjà votre billet d'avion,
oui,
je crois.
Oui, c'est ça, oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt.
Merci à vous, on prendra des nouvelles.
D'accord, merci beaucoup. Au revoir.